Ce matin, donc, je voudrais que cette vérité que nous allons partager ce matin soit aussi le sujet de votre joie. Et vous savez que nous sommes dans l'année de la réforme. Nous nous réjouissons cette année des 500 ans de cet acte courageux que Martin Luther avait posé en Allemagne en apposant 95 thèses qui défendaient l'idée que, évidemment, seul Jésus-Christ est Seigneur et qui défendaient l'idée que les indulgences, notamment c'est à ça qu'il s'attaquait à l'époque, n'étaient pas fondées bibliquement comme principe pour le salut des humains. Martin Luther, vous connaissez un peu, je suppose que vous connaissez un peu son histoire, va plus tard donc être à l'initiative de ce qu'on va considérer comme l'Église protestante. Mais plus que simplement une espèce de foi protestante, j'aimerais que nous regardions Martin Luther et toute la réforme comme vraiment un retour à la foi biblique, retour à la parole de Dieu. C'est plus que cela, ce n'est pas tellement toujours l'Église, parce que l'Église protestante, c'est une Église, et elle peut être aussi piégée comme l'a été l'Église catholique, etc. Mais lorsque nous repensons Martin Luther, dans le contexte où nous sommes replacés à nouveau, comme au premier siècle, dans la parole de Dieu, dans la Bible, alors nous voyons les choses autrement. Ce matin, j'ai à cœur peut-être de ne pas introduire tout ce qui concerne la réforme avec toutes ces questions comme on fait à l'école, c'est quoi la réforme? La réforme c'est ça, voilà les grandes dates, voilà l'histoire, voilà les périodes, et où dire voilà Martin Luther, qui est Martin Luther, et voilà il est comme ça, il est né là-bas, il a fait ci, il a fait ça, c'est pas vraiment mon projet. Mon idée c'est que je voudrais qu'on entre dans la réforme, et je pense que je pourrais m'engager à une fois par mois donner un message en rapport avec un thème qui concerne la réforme ou Martin Luther. Mais j'aimerais que, petit à petit, à travers certaines choses sur lui, nous commencions à faire comme un puzzle qu'on remet. Et il y aura des vides dans le puzzle. Et le vide, ça ne me regarde pas. Ça vous regarde, vous, de pouvoir le combler. Dans le puzzle, il y a du vide qui va manquer. Ça, c'est à vous de le combler à travers vos petites recherches personnelles, comme par exemple acheter un livre, ou comme par exemple acheter un DVD ou un truc comme ça. Ce matin, je voudrais aborder une doctrine, une vérité qui est vraiment chère à Martin Luther. Cette vérité, c'est la justification par la foi. Nous connaissons ça sûrement, et j'aimerais peut-être aujourd'hui aborder cela avec ensemble pour que nous voyons aussi comment cette doctrine, cette vérité est venue s'inviter dans notre foi d'aujourd'hui, notre foi évangélique d'aujourd'hui. Alors, je voudrais peut-être avant toute chose alors confier ce temps de partage entre les mains du Seigneur. Inclinons-nous pour prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci de ce que, malgré tout ce que l'homme a fait pour la galvauder, la triturer, l'édulcorer, l'abîmer, etc. Merci de ce que, par le Saint-Esprit, à travers les hommes, tu as voulu remettre ta parole au centre de la vie chrétienne, au centre de la vie du chrétien. Seigneur, merci de ce que cette parole, elle a été peut-être malmenée, mais elle a toujours été remise à sa place et elle porte la vie qui est en toi. Seigneur, éclaire-nous par ta parole ce matin autour de la justification par la foi et conduis-nous dans cette méditation. Parle à chacun de nous. Seigneur, que tu sois fidèle à ta parole qui dit qu'aucune de tes paroles ne sort de toi et ne va, Seigneur, et ne rentre vers toi sans avoir porté le fruit pour lequel elle est sortie. Que ta parole d'aujourd'hui soit, Seigneur, une parole qui a de l'effet, qui a de l'efficacité, qui a, Seigneur, du fruit dans la vie de nous tous. Seigneur, accompagne-nous, soutiens-nous par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Alors, Martin Luther, si on peut résumer grosso modo un peu ce qu'il a vraiment apporté et qui va être une démarcation franche avec le catholicisme, il y a trois choses que Martin Luther va, sur lesquelles il va insister, bibliquement parlant bien sûr, et qui sont vraiment la marque de fabrique des protestants. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Trois choses. Première chose, Martin Luther va insister sur ce qu'on appelle le sacerdoce universel. L'idée que nous n'avons pas besoin d'intermédiaires humains, de sacrificateurs entre Dieu et nous. Nous n'avons qu'un seul médiateur, Actes chapitre 4, verset 12, qui est Jésus-Christ. Nous sommes, dans l'ensemble, nous sommes tous des sacrificateurs. Il n'y a plus, comme dans l'Ancien Testament, une tribu sur les 12 qui est consacrée à l'Éternel, et le reste, c'est des tribus qui viennent quand il y a besoin de voir, de contacter Dieu, de demander, qui viennent auprès des sacrificateurs qui sont de la tribu des Lévites. Aujourd'hui, les Lévites, c'est nous. Nous sommes les sacrificateurs. Il n'y a pas un clergé possible pour nous. Nous sommes tous les uns les autres sacrificateurs de l'Éternel. Nous sommes ensemble sacrificateurs. Le sacerdoce universel. On y reviendra dans le cours de l'année, donc ça ne sert à rien d'en parler un peu plus longuement. Deuxième chose sur laquelle Martin Luther a énormément apporté et insisté, c'est l'autorité de la Bible. Avant, la source d'autorité dans l'Église catholique était diverse. C'était le pape, toutes les décisions du pape avaient force de loi, ça comptait de la même façon que la Bible. C'était des sources d'autorité au même titre que la Bible, dans tout ce qui est parole du pape, les bulles du pape, etc., les décisions. Tout ce qui était les prédications, tout ce qui était prêché par le prêtre du haut de la chaire, donc du magistère, avait aussi le titre, la valeur de la parole de Dieu. Tout ce qui était tradition de l'Église, que ça soit tout ce qu'on a apporté tout doucement dans l'Église, que ça soit le culte de Marie, que ça soit ceci, que ça soit cela, toutes ces choses avaient valeur d'autorité dans l'Église, et à côté de tout ça, il y avait la Bible. Martin Luther dit non, il n'y a qu'une seule source d'autorité, c'est la parole de Dieu. La parole, toute la parole, et rien que la parole. Là est la source de l'autorité. Là est ce que Dieu a voulu nous dire et ce que Dieu nous transmet comme guide, comme outil, comme code pour nous aider à avancer. Rien d'autre. Et nous, protestants, dans nos confessions de foi, dans toutes les églises, enfin tout ce qui se reconnaît de protestants, que ce soit de tendance évangélique, pentecôtiste, peu importe, charismatique, tous nous reconnaissons une chose, nous reconnaissons que la Bible est la seule autorité en matière de foi et de vie. Cela vient de Martin Luther. Troisième chose importante, et c'est ce point-là que nous allons aujourd'hui aborder, c'est la justification par la foi. Ça, c'est un élément important que Luther a apporté dans la conception du salut. Grosso modo, nous avons la même façon d'aborder le salut avec les catholiques, mais sur des questions bien précises, comme la justification de la foi, là, il y a une différence énorme. Et cette différence est telle que la conception du salut chez les catholiques et chez les protestants devient totalement différente. La justification de la foi, par la foi. C'est un point très important dans notre façon de comprendre notre salut en Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, vous savez qu'il dit « C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. » Comment tu peux être rapide comme ça ? C'est bien. Je n'ai rien ici, c'est normal. Attends, ne bouge pas, je vais essayer d'appuyer le bouton. Bouge pas. Peut-être que je commence à bien connaître la technologie, on ne sait jamais. Non, j'ai éteint. Bon. Il met Acer. C'est un bon signe. Fréquence non supportée, c'est un bon signe. Enfin, bon, c'est pas grave. Tant que vous avez le texte là-bas, tout va bien, ok? Alors, dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, c'est écrit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est véritablement notre base du salut. Nous sommes sauvés parce que Dieu, dans son grand amour, a décidé de nous sauver. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nos péchés. Deux choses relèvent de l'œuvre de la croix. Deux choses sont en jeu dans le cœur de Dieu lorsqu'il y a l'œuvre de la croix. Deux choses. D'une part, il y a deux choses qui relèvent aussi du caractère même aussi de Dieu. D'une part, il y a l'amour de Dieu. D'autre part, il y a la justice de Dieu. Il y a donc dans la croix, à la croix, une conciliation entre, d'une part, l'amour de Dieu et d'autre part, la justice de Dieu. Comment concilier l'amour d'une part de Dieu et son amour? Comment un Dieu juste peut-il sauver un pécheur coupable? Comment l'amour de Dieu peut-il se concilier avec sa justice? C'est ça qui est au cœur de cette doctrine de la justification par la foi. Le péché de l'homme est avant tout une offense à la justice de Dieu. C'est un acte qui réclame la justice de Dieu, qui réclame que Dieu fasse justice, qui réclame le juste jugement de Dieu. Toute la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, évoque cette notion de la justice de Dieu. En quoi est-ce qu'elle consiste? C'est quoi la justice de Dieu? Je vais peut-être essayer de faire simple. Parfois, mes amis, vous me pardonnerez, hein, parfois quand on essaie de faire simple, ça devient compliqué. Donc, si jamais c'est compliqué, vous me pardonnez. Alors, je disais, Dieu est juste et sa justice consiste à faire deux choses. D'une part, rendre justice. D'autre part, exercer le droit en établissant la différence entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Suivez-moi bien. Deux choses. Quand on parle de justice de Dieu, rendre justice d'un côté, c'est l'aspect judiciaire. Et exercer le droit en établissant ce qui est juste et ce qui est injuste, ça c'est l'aspect plutôt gouvernement, organisationnel, administratif. Ok? Alors, la justice, quand on dit que la justice de Dieu consiste à rendre justice, ça veut dire que Dieu fait deux choses. D'une part, il peut soit rendre justice par rapport à un accusé qui est innocent. Innocenter un accusé. Quelqu'un qu'on a accusé de quelque chose dont il est innocent. C'est une justice pour libérer, acquitter cette personne. Mais c'est aussi la justice pour punir l'accusé qui est coupable, pour exercer le châtiment sur cette personne. Deutéronome 25, chapitre 25, verset 1. Mais c'est Christophe, c'est pas normal ça, hein, que moi je n'ai pas de truc ici. Hein. Tu pourrais pas venir jeter un œil ici? Parce que sinon, je vais devoir regarder chaque fois là. Vous savez, ma version de la Bible n'est pas la même que celle que nous lisons là. C'est pour ça que si je lis dans ma version à moi, c'est d'autres choses que je vais raconter. Ça va? Il est fâché? Il n'est pas content? Bon, tant pis, hein. Nous allons poursuivre. Regardez ce qui est là dans Deutéronome 25, verset 1. Lorsque les hommes ayant entre une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent. C'est-à-dire, on va l'acquitter et l'on condamnera le coupable, c'est-à-dire, on va le punir. Ça, c'est la justice de Dieu. Dieu est un juge au sens judiciaire. Il rend justice. Mais Dieu est aussi celui qui exerce le droit. Il ne s'agit pas alors d'un pouvoir judiciaire, au sens où il entend, il juge par rapport à des procès, mais il s'agit maintenant là plutôt d'une façon de gouverner, de veiller à ce que les normes de la société reconnues, les normes de la vie en société qui sont reconnues par la loi, eh bien, soient scrupuleusement appliquées et qu'on respecte les droits des pauvres, les droits des malheureux et qu'on tienne compte de cela. Donc, quand on parle de la justice de Dieu, on est forcément dans un concept juridique. Tiens, vous n'avez pas l'impression que tout d'un coup on est dans une école, là, dans une faculté de droit, en train de parler de bazar comme ça. Mais c'est très important. C'est très important parce que vous allez voir que cette notion, elle est importante pour comprendre par la suite ce qui se passe avec notre salut et qui fait la différence dans notre conception à nous par rapport, par exemple, aux catholiques. Ça va ? Tenez le coup. Je vois des visages qui froncent et d'autres qui essaient de commencer à penser peut-être à la nourriture qu'on a laissée à la maison parce que peut-être ça va brûler. Donc, on constate que Dieu est donc un Dieu juste qui peut justifier. Il peut justifier en absoudrant, c'est-à-dire il peut rendre justice en reconnaissant, en déclarant que une personne est innocente. Ou en disant, c'est pas un innocent. Tout cela, pourquoi j'ai dit que c'est un concept juridique, c'est parce que cela se fait sur la base de la loi. La justice de Dieu s'est pleinement manifestée à travers les 10 commandements, la loi de Moïse. Mais dans le Nouveau Testament, la question va de plus en plus s'orienter avec l'apôtre Paul sur la question plutôt du rapport entre la justice de Dieu et le salut. L'enjeu est important. Et c'est Martin Luther qui va apporter la lumière à cette nouvelle doctrine. C'est lui vraiment qui va mettre, appuyer et éclairer cette question. Alors, ceux qui connaissent l'histoire de Martin, l'histoire et la vie de Martin, ils savent que cet homme avait des gros problèmes. Il souffrait énormément. Et la raison de sa souffrance, c'était quoi? C'était que Luther n'arrivait pas à comprendre comment faire pour être à la fois bénéficiaire de la justice de Dieu alors qu'on est des pécheurs. Il avait du mal à comprendre comment lui, un pécheur coupable au regard de la Bible, pouvait trouver la paix avec Dieu. Puisque, effectivement, quand on regarde dans la Bible, aucun humain n'est juste aux yeux de Dieu. Aucun. Tous les humains sont pécheurs et donc susceptibles d'être punis, châtiés par Dieu. Mais alors, la justice de Dieu, elle ne consiste seulement uniquement qu'à nous châtier. Mais de l'autre côté, Dieu n'est-il pas bon? Ne dit-on pas que Dieu est amour? Ne dit-on pas que Dieu peut pardonner? Mais alors, comment? Effectivement, quand on regarde dans la Bible, j'ai pris juste un texte pour confirmer le fait que la Bible nous regarde tous comme des pécheurs. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Je pense que... Mais purée, j'ai rien ici. Non, il n'y a sur terre
point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais.
Il n'y en a pas. Tous, sans exception, nous sommes pécheurs et donc, devant Dieu, condamnés. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Et Luther était un homme qui se torturait avec ça. Il se torturait tellement que on raconte, enfin, si vous avez regardé le film, vous allez voir ça aussi, on raconte qu'il se flagellait même, hein, pour se mortifier. Il faisait des jeûnes, il priait, il parlait avec son âme, et parfois il s'engueulait avec son âme, parfois il engueulait même le diable en disant « tu ne m'auras pas, je m'accrocherai à Dieu », enfin bref, etc. Bon. S'il était à cette époque ici, on va dire que ce gars-là, il a peut-être besoin d'un petit camisole. Mais peut-être que, vous savez, les questionnements fondamentaux, je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre vie, parfois certaines questions qui nous taraudent et qui nous persécutent, parfois on le dit à haute voix. Non, pas vous? Moi oui, de temps en temps. Donc voilà. Ça peut arriver que l'on puisse s'exprimer à haute voix parce que ça, c'est des choses qui nous dérangent énormément. Mais le conseiller spirituel de Luther, il était moine chez les Augustins, l'ordre des Augustins, et le conseiller spirituel lui dit, Luther, peut-être que tu devrais lire la Bible. Peut-être qu'en lisant la Bible, tu trouveras peut-être un peu de paix et peut-être un chemin pour peut-être te sortir de ton dilemme. Et c'était un conseil certainement inspiré par Dieu. Et Luther va se mettre à lire la Bible. Et on va même pousser plus loin, on va lui dire non seulement tu le lis aux autres, mais tu vas le commenter et à l'université, tu vas donner cours de la Bible. Il va donner cours de quelques livres, il va donner cours de l'épître, il a donné cours des psaumes, il a d'ailleurs fait un magnifique commentaire sur les psaumes, il a le livre sur les psaumes, il va lire les psaumes, il va lire et commenter les psaumes, il va lire et commenter Galates, Hébreux, et puis, lorsqu'il va prendre l'épître aux Romains, ça va être un vrai boom pour lui, une vraie révolution. Qu'est-ce qu'il découvre? Lorsqu'il se met à lire l'épître aux Romains, et la réponse à cette question lancinante commence à se faire jour. Pourquoi? Luther découvre d'abord le fait que Dieu est le seul juste juge. C'est le seul qui juge d'une manière juste. Parce que le reste des juges, eh bien, ils sont partiaux. La Bible dit que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. On ne peut pas espérer de la part des hommes avoir une justice qui soit à 100% correcte à cause de la nature pécheresse. Luther découvre aussi que Dieu est au-dessus de la loi. La loi au sens de 10 commandements. Il est le législateur de la loi et donc le seul capable en même de l'abroger, de changer, de le faire évoluer dans un sens ou dans un autre. Et cette loi, elle a déclaré que tous les humains sont coupables devant Dieu à cause de leur péché. Comment? Vous savez, ça c'est Paul qui l'explique, que la loi, elle était là pour nous amener à reconnaître que nous sommes des pécheurs. Et que nous sommes incapables de nous en sortir. Comment la loi a-t-elle fait ça? La loi dit que quiconque transgresse une seule loi est coupable pour toutes les lois. Plus encore, la loi dit maudit celui qui ne va pas respecter une loi de Dieu parce qu'il est directement sous le jugement. Et donc, ce principe entraîne que nous ne sommes pas capables d'obéir à la loi à cause de notre nature rebelle due au péché. Et cette nature rebelle due au péché entraîne que, de toute façon, face à la loi, nous allons quand même, d'une manière ou d'une autre, la transgresser. Il ne nous est donc pas possible de pouvoir être sauvés. Et, pire encore, la loi nous révèle que nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas capables. Nous sommes impuissants parce qu'on est vraiment esclaves du péché. On est impuissants de sortir de la, du gouvernement, de la domination du péché. Waouh! Un schéma terrible. Ça, c'est ce que la loi nous révèle. Et donc, la loi, c'est un pédagogue quelque part pour nous dire, mon gars, c'est pas ici qu'il faut trouver la solution. La solution, il faut la trouver ailleurs. C'est ça, le travail de la loi. Mais Luther découvre aussi que Dieu a décidé, dans sa justice, a décidé de déclarer juste quiconque croit à l'œuvre de la croix et qui se répand de ses péchés. Dieu donne donc un salut gratuit par la foi dans la personne de Jésus-Christ, dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est exactement comme on l'a dit en Deutéronome 25:1, Dieu exerce la justice pour absoudre l'innocent et condamner le coupable. Mais dans sa justice, il a décidé d'absoudre le pécheur. Mais pour cela, il fallait un moyen. Le moyen, c'est Jésus qui s'offre à la croix. Ça, c'est le moyen de Dieu. Le moyen pour nous, c'est quoi? C'est notre foi. Lorsque nous croyons que sur cette croix-là, Christ meurt à ma place. C'était moi qui devais mourir, mais il a pris ma place. Si je crois que Dieu, tout ce que Dieu dit, que je suis pécheur, etc., alors je rentre dans ce salut gratuit. Romains chapitre 3, versets 21 à 26, on va lire un extrait. C'est un peu compliqué, mais je vais te donner quelques clés pour... Oui, ça c'est la version de Genèse 79, qui est... Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Vous comprenez pourquoi on dit sans la loi? Parce que c'est la décision que Dieu veut pour absoudre le coupable. Sans la loi est manifestée. Vous voyez quand je mets ma tête comme ça, vous là-bas? Oui, tout va bien? Bon. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Effectivement, tous ont péché, il n'y a pas de distinction. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est le problème de l'universalité du péché. Mais, verset 24, ils sont gratuitement justifiés. Voilà le mot qui va fonder la justification. Ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. C'est lui que Dieu a destiné pour être par son sang, a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. C'est jusqu'au verset 26 ou 25? 26, hein? Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, et il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Reviens un tout petit peu sur l'autre partie du verset. Vous voyez, ils sont gratuitement justifiés. Le mot justifié ici veut dire déclarer juste. Ils sont gratuitement déclarés justes. Ils ne sont pas rendus justes. Ils sont déclarés justes. Voilà la différence. C'est un coupable qui a agi. Les actes qu'il a posés, il a tué un homme, ces actes-là sont là. Il a tué. Il a tué. Il a commis des actes irréparables. Ils sont là, ces actes-là. Mais Dieu le déclare innocent. Le déclare juste à une seule condition, c'est qu'il regarde à la croix, qu'il reconnaisse l'œuvre de Jésus-Christ, se reconnaisse pécheur, demande pardon, se répande et surtout change de vie. Dieu donc offre un cadeau. C'est une justice en quelque sorte cadeau. au pécheur coupable, mais seulement s'il met sa confiance en Christ, en Jésus-Christ seul. Ce n'est pas que le péché a disparu. Le meurtre que j'ai commis est toujours là. Mais Dieu a enlevé cela. C'est dans le chapitre 4 que nous n'allons pas voir avec l'épître aux Romains, il est question d'Abraham et de David. Et Paul donne cet exemple-là, il parle de Abraham qui a cru et cela lui fut imputé à la foi. Et l'idée c'est quoi? C'est que le poids de nos péchés forme notre passif. C'est comme si en comptabilité, nous avons les crédits et les débits. Hein, tu veux expliquer ça mieux, hein, pardonne-moi si jamais je fais quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc, nous avons les actifs et les passifs, ok? Ça, c'est plus facile pour moi. Les actifs et les passifs, ok? Et là, dans les passifs, nous avons une grosse dette. Une dette qu'on ne peut pas payer. Impossible. Devant Dieu, cette dette-là, rien à faire. Elle va nous conduire à la prison. Elle va nous conduire à la condamnation. Elle va nous conduire à l'enfer. Rien à faire. Du côté de l'actif, il n'y a rien. Rien. Tout le poids penche vers la dette, vers le passif. Imaginez une vie pareille. Vous n'avez que des dettes. C'est terrible, hein? C'est terrible, hein? Il n'y a rien de l'autre côté, rien. Voyez? Et c'était ça, le poids de nos péchés qui forme notre passif. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dieu va effacer ce passif-là. Il va enlever ce passif-là par un pardon total. Dieu pardonne. Il dit lui-même dans la Bible que lorsque je pardonne, je jette la faute dans la mer des oublis. C'est comme si la faute n'existe plus. Nous, les humains, quand nous pardonnons, nous gardons encore rancune. Dieu, quand il pardonne vraiment. Cette chose n'existe plus. Il vit comme si cette chose n'avait jamais existé. C'est d'ailleurs pour ça que nous péchons souvent. Parce qu'autrement, si c'était un Dieu qui, tac, nous tapait, je crois qu'à mon avis, on serait plutôt comme des pharisiens. Donc, d'un côté, l'actif est liquidé, le passif est liquidé, et c'est ça l'imputation, Dieu va maintenant mettre le don de sa justice dans notre actif. Donc non seulement notre dette est payée, mais en plus, nous redevenons riches. Alors qu'est-ce que Dieu a mis là? C'est tout ce qui relève de sa grâce. Mes amis, je pense que nous pouvons profiter de cet instant pour réfléchir à ce qui s'est vraiment passé avec notre vie. Parfois, nous prenons à la légère ce salut qui nous a été donné. Nous pensons que c'est quelque chose de « j'ai cru, j'ai décidé de recevoir Jésus, c'est très bien, allez, bon, et puis ». C'est quelque chose où il y a eu un enjeu spirituel énorme. Il y allait de notre vie. C'était une question de vie ou de mort pour nous. C'est un acte juridique. Pourquoi? Parce que ça relève de la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui le décide. Ça ne dépend pas de nos efforts. Nous sommes vraiment acquittés. Nous sommes vraiment libérés, graciés. Nous obtenons même le statut des justes. Vous imaginez? Nous obtenons le statut des justes. Nous sommes déclarés justes. Nous devenons justes. Exactement comme l'étranger, suédois ou finlandais, qui demande la nationalité belge, et qu'il obtient, ben, il devient belge. Mais ses origines finlandaises existent encore. Hein. Ses origines suédoises existent encore. Mais c'est un belge. Il va aimer manger les frites comme moi j'aime bien les frites. Voilà. Enfin, je ne devrais plus parce qu'il paraît que ça fait grossir. Cela ne dépend pas des efforts. Mon fils qui fait le droit dirait qu'un acte juridique, c'est un acte qui ne dépend pas de l'aspect subjectif des individus. Ce sont des faits matériels, c'est des faits objectifs. C'est comme ça, et c'est tout. Nous avons donc le statut de juste. Qu'est-ce que cela nous donne comme avantage? Romains chapitre 5, versets 1 à 4. Christophe.
Étant donc justifiés, c'est-à-dire déclarés justes par la foi, nous avons quoi? La paix avec Dieu. Voilà ce que cela nous apporte. La paix avec Dieu. Souvenez-vous, Luther était en but avec quel problème? Il était en but avec le problème de comment moi, pécheur, coupable, c'est-à-dire que c'est pas un simple pécheur, c'est un pécheur qui mérite vraiment la punition qui doit lui tomber dessus. Mais comment, moi, pécheur coupable, je peux faire la paix avec Dieu? Eh bien, étant justifié, déclaré juste, j'ai la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, pardon, c'est Jésus-Christ. Et c'est pas tout. Et ça continue. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Bien plus, nous glorifions même dans nos afflictions. Nous avons la paix, mais nous avons aussi l'espérance. Vous savez, c'est quoi l'espérance? Qui ne connaît pas le sens du mot espérance? Levez la main. Oh, des timides. Personne n'ose lever la main. Donc, tout le monde connaît ce que c'est que l'espérance.
Tout va bien.
Et donc, nous avons non seulement la paix avec Dieu, mais nous avons l'espérance. Et c'est à cause de l'espérance, grâce à l'espérance, que nous nous glorifions même dans nos afflictions, dans nos épreuves, dans nos souffrances. Nous rendons gloire à Dieu, même dans nos souffrances, parce que nous savons, sachant, que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance.
Nous savons qu'on peut aller dans ce sens-là. On peut persévérer, parce que nous avons une belle chose qui est devant nous. La justification par la foi est importante. Elle est centrale, car elle permet à Dieu de résoudre ce dilemme terrible qui est de concilier son amour et sa justice. Cette doctrine n'occulte pas, au contraire, la gravité du péché, ni le drame de la croix. Elle met en lumière l'amour de Dieu à travers la grâce et manifeste le caractère juste de Dieu, un Dieu qui ne peut pas laisser le pécheur vivre. En outre, comme nous l'avons vu ici, la justification par la foi nous donne une perspective joyeuse de vie chrétienne. Le chrétien est quelqu'un qui va vivre dans des vraies certitudes. Je suis justifié. Dieu me regarde comme quelqu'un de juste. C'est pas que je dois encore faire des efforts pour mériter que Dieu considère que je suis juste. Je le suis par la foi. Une vraie certitude d'être sauvé, d'être accepté, d'être aimé par Dieu. Une certitude. En remettant à jour cette doctrine, Martin Luther, en bon réformateur, voulait juste qu'on revienne au fondement biblique et à l'enseignement des chrétiens du premier siècle. C'est progressivement, malheureusement avec, donc dans, après le premier siècle, c'est progressivement vers le quatrième siècle, avec saint Augustin, que cette doctrine a commencé à s'égarer et à devenir ce qu'elle est devenue par la suite, c'est-à-dire au lieu de déclarer juste, c'est plutôt rendu juste, qui n'est pas vraiment la base de la parole de Dieu. Je vais terminer, je vais conclure. Romains chapitre 1, verset 1, chapitre 1, 16 à 17.
Je n'ai point honte de l'évangile, de la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, du grec, qu'en lui s'est révélée la justice de Dieu. Vous avez entendu ça? Dans l'évangile est révélée la justice de Dieu. Et ce n'est pas n'importe la justice de Dieu. La justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. On boucle la boucle.
Au départ, Martin Luther ne voyait pas comment un juste pouvait vivre devant Dieu. Et maintenant, nous découvrons que le juste vivra devant Dieu par la foi. Pourquoi? Parce que Dieu le déclarera juste. Au cœur du drame humain, au milieu des ténèbres dans lesquelles l'humain s'est plongé, Dieu a décidé de justifier, c'est-à-dire de déclarer juste quiconque mettrait sa confiance dans son Fils. Oui, Dieu pouvait faire cela sans se contredire, car d'une part, il est le juste législateur, et d'autre part, en envoyant son Fils mourir à notre place, il peut donner la possibilité à l'homme d'être épargné de sa colère, de l'enfer que nous méritons. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette vérité qui est le fondement même de notre foi des protestants. Aide-nous à vivre en reconnaissant que tes jugements sont parfaits. Ta justice est parfaite. Tu es juste, Seigneur. Aide-nous aussi à respecter ton nom. À savoir que si tu peux sauver, Seigneur, et si tu peux accorder le salut de cette façon, à savoir aussi que tu es aussi le juste qui ne laisse pas le pécheur impuni, qui ne laisse pas le pécheur vivre. Aide-nous à vivre de toi, à t'honorer, à marcher dans tes voies, à être des chrétiens qui honorent ton nom. Merci pour cette réalité qui fait de nous, qui nous donne le statut de juste. Merci pour cette réalité, parce qu'elle nous donne cette joyeuse perspective de vie chrétienne. Elle nous donne une espérance merveilleuse. Elle nous donne la paix avec toi. Elle fait de nous des enfants de Dieu et nous pouvons vivre devant toi, approuvés dans tout ce que nous faisons. Et nous pouvons revenir à toi, pardonner pour les péchés que nous faisons. Seigneur, honneur et gloire à toi, au nom de Jésus. Amen.